Bonjour, c'est Christophe Révaux pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Alors que nous attendons la nomination d'un nouveau Premier ministre, et alors que les circonstances occupent passablement, comme on peut s'en douter, l'ensemble des députés, Ludovic Mendès, le député de notre circonscription, a bien voulu répondre à nos questions hier soir. Bien entendu, il y était question de la nomination d'un gouvernement qui n'a duré que 14 heures, les conséquences que cela peut avoir pour notre pays, mais nous avons également abordé quelques sujets internationaux et évoquer rapidement les prochaines élections municipales à Metz.
Monsieur le député, je vous remercie de me recevoir en ces conditions un peu particulières. Avant de plonger dans le vif du sujet, parce que vous imaginez bien qu'on va parler de l'actualité, aujourd'hui est un jour un peu particulier, c'est l'entrée au Panthéon de Robert Badinter. Je voulais avoir déjà votre sentiment vis-à-vis de la personnalité de Robert Badinter et malheureusement de ce qu'on a appris dans la journée, à savoir que sa tombe avait été profanée le jour même de cette entrée au Panthéon.
Bonjour Christophe. Ouais, semaine particulière, là-dessus il n'y a rien à dire, je crois que tous les Français l'ont vu. Et journée exceptionnelle parce que au grand homme, la patrie apporte toute sa reconnaissance. Et je crois qu'on peut tous dire que Robert Badinter était un grand homme politique. Et au-delà de l'homme politique, un citoyen formidable dans tous les combats qu'il a pu mener. On retient beaucoup la peine de mort, du moins l'abolition de la peine de mort, mais il a aussi permis de dépénaliser l'homosexualité et ce n'est pas négligeable, surtout dans un pays qui vit encore avec quelques discriminations. Il est certain que la profanation de sa tombe est une insulte à l'ensemble de la France et que des personnes qui se permettent de faire ce genre de choses, comme je vous l'ai dit, sont encore dans un système discriminatoire et ne comprennent pas que ce qu'ils font a un impact très négatif pour l'ensemble de la population. Mais là, on a un grand homme. Moi, j'ai eu de la chance d'être... faire partie des invités lors de la cérémonie d'hommage qui lui avait été rendue à son décès. Et les mots du président de la République et de sa femme avaient été de très grande qualité. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour dire à quel point il a pu marquer l'histoire de la France, du moins l'histoire récente de la France en tout cas, et de l'impact que ça a pu avoir sur l'ensemble de la population française.
Donc passons donc à l'actualité. La dernière fois nous sommes vus, nous attendions les résultats du vote de confiance de M. Bayrou, de François Bayrou. Alors déjà peut-être un premier sentiment par rapport à ce qui s'est passé cette semaine-là.
Comme je vous l'avais dit, il n'y avait pas beaucoup d'espoir, donc ça s'est confirmé. Malheureusement, on a une Assemblée nationale et des partis politiques qui agissent parfois de façon étonnante. Je pense que tout le monde n'était pas obligé de voter pour le faire tomber. Il y avait d'autres possibilités de faire des choses, et puis entre-temps, il s'est passé tellement de choses que je crois qu'on a déjà oublié cette séquence.
Donc séquence suivante, nomination de M. Lecornu, qui a patienté, qui a écouté les différents partis politiques, les a reçus, y compris le corps syndical. Que retenir de cette séquence-là avant la nomination ce week-end d'un gouvernement qui, on y reviendra, n'a pas beaucoup duré?
Moi, je pense qu'on avait enfin une nouvelle méthode de travail, alors certes, qui n'a pas su se confirmer, mais... d'annoncer qu'il n'y aurait pas de 49.3 utilisé, par exemple, pour faire passer le budget de l'État et le budget de la Sécurité sociale, c'est quand même non négligeable, après le débat que nous avons eu. Même si c'est quelque chose de constitutionnel, ça reste dans un système démocratique, pour beaucoup, c'était vu comme quelque chose de négatif et d'antidémocratique. Donc déjà, c'était un bon point. Je crois que les négociations allaient dans le bon sens. Il y avait des possibilités de faire évoluer des choses, de remettre en place des débats qui avaient été, pour certains, volés, comme celui sur les retraites. Malgré tout, je crois que certains syndicats essaient d'obtenir des choses qu'on ne pouvait pas garantir et qui étaient impossibles. C'est le cas de la CGT, par exemple. Un peu moins le cas pour Madame Léon de la CFDT, qui proposait d'autres débats que ceux posés par Sophie Binet au niveau de la CGT. Mais ça a attendu tout le monde. Je veux dire, tout le monde ne peut pas obtenir tout ce qu'il veut dans une période où je crois qu'on doit se dire et regarder la réalité en face de on a peut-être déjà beaucoup et il y a des moments où faire des choix. Et ces choix-là, c'est... comment on améliore le rendement du travail, comment on améliore le pouvoir d'achat. Parce que même si le pouvoir d'achat était, quoi qu'il arrive, amélioré, puisqu'on parle de 22% d'augmentation du pouvoir d'achat sur les dernières années, pour beaucoup d'entre nous, et ça me paraît normal, on a la sensation que ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, la baisse d'impôts, c'est bien, la taxe d'habitation en moins, c'est bien, mais par contre, le salaire n'augmente pas. Et quand on n'a pas d'augmentation directement sur la fiche de paye, c'est assez compliqué. Et on a fait, nous, ce qu'on a mis en place, la baisse de la CSG et le retrait de certaines cotisations sociales qui ont permis à chacun de gagner de l'argent. Parce que globalement, c'est 10% sur le salaire. Mais on a mis en même temps l'impôt à la source. Donc on n'a pas vu cette différence de salaire tout de suite. Et donc ça n'a pas permis de démontrer que ça avait fonctionné. Mais dans le fond, moi ce qui m'inquiète, c'est de voir toutes ces corporations ne vouloir rien changer et dire à l'État, vous vous débrouillez tout seul. Je rappelle juste que le budget de l'État, c'est le budget donné par les Français, que c'est de l'argent qui nous appartient à tous. et qu'on essaye de le dépenser le plus intelligemment possible. Et c'est parfois très compliqué parce qu'on ne veut pas faire certains, je dirais pas sacrifices, mais certaines modifications qui obligent à repenser le système social dans notre pays, qui obligent à ouvrir un vrai débat sur les retraites dans notre pays, et qui obligent aussi à confirmer et de dire que le salaire ne paye pas assez parce qu'on finance tout le reste. Et il y a des personnes qui aujourd'hui ne supportent plus ça. Et je peux entendre quand on dit qu'il faut aller chercher chez les plus riches, il n'est pas normal que certaines personnes dans notre pays qui gagnent beaucoup d'argent payent en effectif moins d'impôts en pourcentage que le français moyen qui, lui, n'a pas la possibilité de défiscaliser ou de mettre son argent, sous le matelas. Donc l'arrêté, elle est aussi qu'on doit réfléchir à ça. Mais pour autant, on ne doit pas rentrer dans les dogmes. Et je crois que les débats qui ont été posés, par exemple, par le PS sur la taxe Zuckmann, qui depuis ont été oubliés d'ailleurs, nous oblige à se dire qu'il y a une réflexion d'équité à trouver, de justice sociale, de justice fiscale, mais pour autant, je crois que chacun a compris qu'on ne pouvait pas tout avoir. Et il va falloir accepter de faire des choix. Ça ne sera pas sur la santé, ça ne sera pas sur le travail, ça ne sera pas sur les armées, ça ne sera pas sur la sécurité. Donc comment on fait ?
Je refais une petite parenthèse sur vous parliez de fiche de salaire et de baisse de cotisation. On fête les 80 ans de la sécurité sociale et certains craignent que la santé soit mise aux mains du privé aux dépens du public et aux dépens de la création historique de la sécurité sociale.
Je ne sais pas pourquoi ces gens posent ce débat et aiment faire peur à tout le monde, mais il n'a jamais été pensé ça et il ne le sera, ça ne le sera jamais. Notre système à nous, on nous l'envie et personne n'a envie de le faire tomber. Et je crois qu'on ne se rend pas compte de la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je comprends que payer 17 euros une place de parking quand on va avoir un malade ou quand on a besoin d'être soigné, ça pose problème. Sauf que sortons de l'arrêté de notre pays, personne ne peut obtenir le système de santé que nous avons aujourd'hui avec le taux de remboursement que nous avons et cet accompagnement personnalisé que nous avons en permanence. Et après, il y a un débat, et ça a été posé à l'époque par François Braun intelligemment, de dire est-ce que quand on va aux urgences, il y a vraiment une urgence ? Est-ce que quand on va à l'hôpital, il y a toujours besoin d'aller à l'hôpital ? Et est-ce que parfois, le fait d'avoir juste le nez qui coule, on a besoin d'aller chez le médecin traitant ? Ça, c'est une facilité qu'on connaît. Je crois qu'on a besoin de se rendre compte de l'arrêté des dépenses de santé dans notre pays. Et oui, parfois, il est compliqué de se dire qu'on va mettre, encore une fois, 1 euro complémentaire non remboursé par la Sécurité sociale sur les médicaments, mais on a besoin de trouver des solutions. Plus on a une société qui est déprimée, plus on a une société qui est vieillissante, plus ça nous coûte de l'argent au niveau global, parce que la Sécurité sociale repose sur tout le monde, globalement sur les travailleurs quand même, et qu'on a besoin de faire en sorte d'apporter des réponses à chacun d'entre nous. Et en même temps, on se dit qu'il faut faire des choix aussi en termes de santé. Mais tout le monde parle de la santé dans notre pays, sans des fois savoir de quoi on parle. Et il y a une réalité par contre qui est intéressante, c'est que le coût de gestion de la santé dans notre pays est supérieur à n'importe quel autre pays autour de nous. Donc là, il y a peut-être un travail à faire sur l'administratif, certaines normes et certaines règles qu'on sait appliquer, qui par contre nous coûtent de l'argent alors que ça ne devrait pas.
Et alors, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a quand même quelques reculs au niveau de certains soins, au niveau de certaines pistes de la santé, dont certains qui vous tiennent à cœur, notamment la pédopsychiatrie.
Il n'y a pas vraiment de recul, mais il y a des débats qui sont posés. Par contre, on a besoin d'avancer sur des thématiques, et je crois que la psychiatrie, la pédopsychiatrie, tout ce qui est en lien avec la jeunesse, on doit mettre des bouchées doubles. Aujourd'hui, ce qui nous coûte le plus cher, et c'est pas méchant, c'est pas la gériatrie, mais c'est surtout les personnes âgées, et je ne tire sur personne. La réalité est telle qu'elle est. Après, on a ce qu'on appelle les ALD, donc les maladies, les infections de longue durée, et là, on a besoin de continuer à accompagner des personnes qui ont besoin d'être accompagnées spécifiquement, parce que c'est une maladie qui est à vivre au quotidien et qu'on ne peut pas parfois soigner, du moins. Il n'y a pas d'effet curatif. On fait en sorte que la maladie ne s'aggrave pas. Donc il y a toutes ces thématiques qui sont sur la table, mais il faut faire des choix. Et aujourd'hui, l'hôpital public coûte cher, mais on ne veut pas le faire tomber. On a mis énormément de milliards pour rattraper ce qui s'était passé dans le passé avec des hôpitaux qui étaient surendettés, mais jamais on fera de différence entre le public et le privé, et on n'aura jamais la volonté d'aller vers un système privé. Parce que si on va vers un système privé, il n'y a que les gens les plus riches qui pourraient y arriver. Et quand on voit ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis ou ailleurs, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, quand vous êtes soigné, en général, vous payez rien. Et je crois que c'est une chance. Par contre, il faut qu'on se rende compte de la réalité du coût que ça a derrière. Un accouchement, ça coûte de l'argent. Dans d'autres pays, vous le payez pleinement. En France, on ne le paye pas. On payera si on prend des options, entre guillemets, à l'hôpital. Et ça, c'est une chance que nous avons. Et ce système-là, personne ne veut revenir dessus. D'ailleurs, personne ne veut revenir sur le système social. Certains veulent juste le limiter ou le repenser parce qu'il y a peut-être aussi pas des abus, mais la sensation parfois que, en fait, on est mieux en restant à la maison qu'à l'extérieur. Ce qui n'est pas vrai, pour autant. On ne vit pas très bien quand on vit avec des accompagnements sociaux ou alors des indemnités en lien avec la sécurité sociale, parce qu'on perd aussi énormément d'argent. Mais aujourd'hui, il y a un débat qui se pose sur comment on fait pour le limiter en termes d'impact sur les travailleurs et comment on va chercher aussi une partie de cet argent ailleurs. C'est le débat que j'ai posé moi sur la CSG, cette contribution sociale générale qui est censée accompagner justement le système médical et les personnes les plus âgées et qu'on peut aller financer autrement avec une assiette beaucoup plus large.
On ferme cette parenthèse. On revient sur la séquence de M. Lecornu comme Premier ministre. La semaine dernière, donc, vous l'avez dit, il fait son annonce pour le 49-3. On s'attendait à ce qu'il nomme un gouvernement, mais il a fallu patienter un petit peu. Le gouvernement, finalement, a été révélé dimanche. Et patatras, ça a duré que 14 heures.
Merci, M. Retailleau. Voilà. Et je crois que tout le monde en a pris conscience. On a un ministre de l'Intérieur, président de parti, qui a des ambitions présidentielles. Et qui a décidé de tout faire sauter. Alors peut-être que le péché originel était de renommer Bruno Le Maire. Moi, là-dessus, je pense que c'était une erreur. Ouais, et ça, je peux l'entendre. Même si c'était sur un domaine réservé du président de la République, qui sont les armées, on aurait pu trouver un autre profil. Mais pour autant, le comportement de Bruno Retailleau pose problème. D'ailleurs, dans sa propre famille politique, il y a un vrai débat qui s'est installé. J'arrive pas à comprendre que des personnes se disent que leurs militants sont supérieurs à l'avenir de la France. Et c'est cette phrase du Premier ministre qui a été excellente dès lundi matin, qui rappelle qu'on choisit d'abord son pays avant son parti. Je crois qu'on a été quelques-uns à le faire après, par exemple, les législatives anticipées de 2024, où on a fait le choix de se mettre en apparenté pour montrer que le message qui nous avait été passé était supérieur à l'avenir de notre parti politique. Et un parti politique, ça ne vit pas sans les Français non plus. Donc il faut savoir faire abstraction de certaines choses, et moi-même, je l'ai dit encore en réunion de groupe mardi matin chez nous, où je disais à Gabriel Attal qu'on n'est pas là pour parler à des militants, on est là pour parler aux Français, et il va falloir faire des choix. Et pour ça, il va falloir accepter le compromis. Le compromis, parfois, ça fait un peu mal, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on appelle ça des totems, et on pense qu'on ne peut pas les toucher. Et malheureusement, le totem de Bruno Le Maire a été... le totem de Bruno Retailleau a été Bruno Le Maire. Et quand on voit en plus dans la séquence l'explication de Bruno Le Maire qui nous explique qu'il a essayé de l'appeler mais qu'il n'a pas réussi et que l'autre n'a pas regardé son téléphone, je suis désolé mais c'est plus que risible. Et là on est la risée du monde politique. Et j'ai beaucoup de citoyens ici qui me disent « Moi j'ai pas envie de me retrouver avec un Rassemblement National fort, j'ai pas envie de voter. » Parce qu'en fait on a fait un choix et il faut absolument trouver un compromis. Et moi je passe mon temps depuis un an, et je crois qu'on l'a dit à plusieurs reprises, de rappeler que si on parle pas du quoi, du pourquoi et du comment, le qui ne changera rien. Et pour preuve, c'est qu'encore une fois, on a mis des personnes, on n'a pas voulu en changer certaines, parce qu'on pense que certains sont indétrônables. On sait tous que dans une entreprise, quand quelqu'un ne fait pas son travail, on doit le remplacer. Là, c'est pareil. Et quand on a des ministres aujourd'hui qui ne jouent pas le jeu, ils doivent être remplacés. Et je ne supporte plus, et moi, lundi matin, j'ai eu honte, et le terme est fort, hein, mais il n'est pas galvaudé, j'ai eu honte de la séquence que nous avons vécue, parce que moi, en tant que parlementaire, je me sens insulté, parce que je pense qu'on se bat pour faire... passer des idées et des méthodes et qu'on n'est pas écouté. Et j'ai honte en tant que citoyen parce que je me dis que nos élus ne se comportent pas correctement.
On vous a entendu d'ailleurs dans les médias lundi matin, sur plusieurs médias, exprimer votre sentiment après la démission de M. Lecornu, donc, qui est arrivé trop vite, battant deux records, hein, la durée d'un gouvernement et la durée d'un Premier ministre de la Ve République. Et vous avez exprimé quelque chose qu'on n'entendait pas encore jusque-là, c'est qu'il y avait une autre piste à explorer, puisqu'on parlait de démission du président, on parlait de dissolution, on parlait de trouver un autre Premier ministre, et vous avez parlé de négociation, de trouver des négociateurs pour qu'on parle vraiment du vrai sujet, à savoir qu'est-ce qu'on fait.
Mais ça, je le dis depuis la nomination de Michel Barnier, ça veut dire que ça fait un an maintenant. À partir du moment où vous n'êtes pas en capacité d'avoir une majorité, en étant seul, que votre coalition n'a pas la majorité non plus, vous êtes dans l'obligation de négocier, de discuter et d'aller au consensus. Et ça, j'ai l'impression qu'en France, on ne sait pas faire. Alors ça marche dans les conseils municipaux, ça marche au niveau des départements et des régions, mais on ne sait pas le faire au niveau national. Et alors certains n'ont pas toujours joué le jeu, que ce soit à gauche, à droite, le PS n'a pas toujours été très intelligent dans sa manière de dire les choses, les Républicains non plus. Nous aussi, parfois avec des lignes rouges dans les débats, ça ne peut pas fonctionner. Et moi, j'ai toujours dit, si on ne trouve pas d'accord... qui peut être basé sur 10, 15, 20, 30 points. On n'a pas besoin de savoir si l'accord il repose sur tant de propositions ou de réformes ou autres. Il a juste besoin de savoir où est-ce qu'on va. Et tant qu'on ne fait pas ça, on ne peut pas avancer. En fait, c'est comme dans une équipe, qu'elle soit de foot, de rugby, de hand, de ce que vous voulez, quand c'est un travail collectif, on a des règles, chacun a son poste, et on sait que notre objectif, c'est de faire rayonner son club et de gagner. Eh ben, je demande juste la même chose. Et nous, c'est de faire rayonner la France, de gagner des parts de marché pour montrer qu'au niveau économique, on est bon, de montrer qu'en termes de diplomatie, on est bon. Et surtout, dans un moment où on est en pleine guerre froide avec la Russie, ben, de montrer qu'on ne se laissera pas marcher dessus. Et malheureusement, je crois que certaines personnes ont oublié. Et c'est pour ça qu'à force de mettre des gens au lieu de mettre des idées, on se retrouve dans cette situation-là.
Beaucoup de Français ont jugé cette séquence-là affligeante, mais on est aussi un peu la risée à l'étranger. Et les conséquences, c'est aussi sur la bourse.
Mais ça a tellement de conséquences. Ça crée une insécurité en France, une insécurité que personne n'avait vu arriver, qui est une insécurité politique, et avec des administrations qui ne savent plus si elles vont fonctionner ou pas, avec un système qui risque de s'effondrer. Et on se pose la question si la démocratie, en fait, est la meilleure des choses qui puissent nous arriver, alors que oui, alors c'est la moins pire, mais c'est la meilleure quand même. Ça fait peur au marché financier, au monde économique qui ne veut pas investir et ne veut pas recruter. Et ça fait peur à tout le monde, en fait. Et puis, alors, ça fait rire de voir qu'on a été la risée du monde entier. C'est toujours agréable pour beaucoup d'étrangers de critiquer la France et de taper dessus, même si, malheureusement, cette séquence-là, il y avait de quoi être la risée du monde politique européen. Mais quand on voit tout ce qui s'est passé en Europe avant que ça arrive en France, on est tous concernés. Je rappelle que les Allemands ont réélu un chancelier il n'y a pas longtemps, parce que l'Allemagne n'arrivait pas à tenir son gouvernement. Que les Belges ont, encore une fois, pas de gouvernement, je crois, c'est à Bruxelles ou je ne sais plus dans quelle province fédérale. Les Pays-Bas ont eu des difficultés, c'est l'extrême droite qui est arrivée. La République tchèque, il y a eu des problèmes en Moldavie, en Bulgarie, en Roumanie, en Espagne, au Portugal, il y a eu 4 élections sur les 5 ou 6 dernières années. Donc en fait, ce n'est pas que la France. Et puis, ce qui s'est passé aux États-Unis ou ailleurs, ça démontre juste que le monde occidental est en véritable difficulté, et ça je vous l'ai déjà dit aussi plusieurs fois au micro, et on le constate de plus en plus, parce que les Français, comme les autres, aspirent à une meilleure vie, comprennent qu'en fait, d'un point de vue écologique, il faut arrêter de surconsommer, mais on a besoin aussi, parce qu'on est dans un système de consommation et qu'on n'est pas prêt à tout revoir, qu'on comprend que cette surconsommation nous coûte plus d'argent que ce que ça pouvait coûter à nos parents ou à nos grands-parents, mais pour autant, on est toujours accro et on en a besoin, et surtout, on a l'impression d'avoir fait des efforts que d'autres générations n'ont jamais fait, mais parce qu'on ne se compare pas correctement. Et que oui, nous, on a de la chance d'être une génération qui n'a pas connu la guerre, mais qui commence à arriver à nos portes quand même. On est une génération qui n'a pas eu besoin de reconstruire un pays, parce que quand on est arrivé, tout était construit, les centrales nucléaires, les lignes de TGV, les autoroutes. Et on a la sensation qu'en fait, tout est facile à obtenir en un claquement de doigts, parce qu'en plus, le numérique nous a montré qu'on pouvait aller très vite. Et le politique est un peu déconnecté de ça, parce que parfois il est un peu plus âgé que la moyenne de la population, et qu'il oublie que l'histoire peut se répéter rapidement, et que si on n'est pas capable de préparer l'avenir, on aura une bascule. Et je rappelle qu'à chaque fois que le monde occidental a connu une révolution, qu'elle soit industrielle, de guerre ou autre, il y a eu une bascule sociétale. Et là, on est en plein dedans. On est en plein dedans, et il faut juste l'accepter, et se dire, quand on se met autour d'une table, comment on accompagne cette transition. Et comment on fait en sorte que chacun s'y retrouve. Quand d'autres partent du principe que ça fait peur, cette transition et ce changement, et se replient sur eux-mêmes. Et ça, on le voit partout. Et aujourd'hui, on a des gens qui s'accrochent au pouvoir, on a des gens qui s'accrochent à un système, on a des gens qui s'accrochent à un modèle qui ne fonctionne plus.
Quand je parlais de risée, c'était la première partie de ma réflexion sur les pays étrangers qui observaient ce que se faisait en France. Les pays qui ont été le plus discrets par rapport à ce qui s'est passé, c'est ceux, justement, chez qui le consensus est un modèle de politique.
Mais c'est la majorité de l'Europe, en fait. Vous allez en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Belgique, ce dont on parle. L'arrêté, c'est qu'eux sont dans l'obligation de trouver un accord pour avancer. Donc ils savent faire. Nous, on a un système qui s'appelle la 5e République, qui est présidentielle. Mais on oublie que le Parlement n'a jamais fonctionné comme ça. Parce que les élections sont faites en sorte que le président de la République a presque sa majorité dans la foulée de son élection, et ainsi de suite. Mais en fait, on sait le faire, mais pas au niveau national. Et pourtant, ces partis politiques existent encore. Mais eux-mêmes voient une bascule avec des extrêmes montées, qu'ils soient de gauche ou de droite. Donc ça prouve bien que ce n'est pas juste dû à un problème démocratique ou de modèle politique. C'est dû à un système de société qui est à bout de souffle. On le voit, ça ne fonctionne plus comme ça fonctionnait il y a quelques années. Et en plus, même quand on fait de la croissance, elle n'est plus aussi importante qu'avant. Les pays qui font plus de croissance, c'est les pays qui sont en plein boom, parce que justement, construisent des autoroutes, construisent des routes, construisent des lignes de chemin de fer, construisent des industries. Et nous, c'est pas le cas, parce qu'on a déjà tout. Donc nous, on est censé penser à la société de demain, et on prend même du retard sur des sociétés qui sont plus jeunes que nous. Et on oublie une chose, et c'est ça que je comprends pas, c'est qu'on oublie que la majorité de l'Europe sont des démocraties très jeunes. La majorité de l'Europe aujourd'hui est née après 89. Et je crois qu'on l'a oublié.
Je reviens donc en France. Suite de la séquence, le président de la République demande à M. Lecornu de poursuivre les négociations jusqu'à hier soir. Donc c'est encore tout récent. Qu'en savez-vous du fruit de ces négociations ou quel regard vous portez sur le peu qui a pu être fait et notamment Mme Borne qui est prête à lâcher du lest sur la mise en suspens de la réforme des retraites?
Je crois que moi, que je fais comme tous les Français, j'ai regardé le Premier ministre démissionnaire hier à la télé et j'ai vu un homme d'État, j'ai vu un homme que personne ne connaissait, de grande qualité, et qui a fait ce qu'il a pu en deux jours. Et je crois qu'il a obtenu ce qu'il devait obtenir, ça veut dire une nouvelle plateforme de travail. On ne sait pas encore comment elle va se traduire, on est dans l'attente. Et même si j'avais des informations, vous comprendrez que je ne pourrais pas vous les partager. Mais la réalité, c'est qu'en l'État, on n'a pas encore toutes les informations et on attend la nomination d'un Premier ministre par le président de la République pour savoir comment on va pouvoir travailler. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde dit la même chose. Pas de candidat à la présidentielle, pas de personne qui est là pour nourrir son propre parti politique. Donc ça va quand même faire en sorte que certaines personnes disparaissent du gouvernement.
De l'échiquier. De toute façon, il y en a un qui a dit si c'est avec des macronistes ou si c'est avec la gauche, je ne serai pas au gouvernement.
Je crois qu'il a peut-être envie de dealer avec Marine Le Pen. On lui laissera le choix de le faire. Surtout quand on appelle à voter pour le RN au lieu de voter contre un candidat dit de gouvernement et démocratique. Ça, c'est son choix, et ça, c'est les désaccords profonds que j'ai toujours eu avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Maintenant, sur le reste du sujet, moi, dès mardi matin, je disais à Gabriel Attal, parce que nous, on en débat entre nous, parce qu'on fait partie des forces politiques à l'Assemblée nationale qui doivent trouver le compromis. On est central, on a quand même une centaine de députés, et après le Rassemblement national, on est la plus grande force politique. Et je ne parle pas de l'ensemble du bloc central, je parle juste de Renaissance. Et quand on est une centaine de députés, on doit débattre entre nous, ce qui n'est pas toujours très simple, parce que j'ai des collègues qui viennent de l'aile droite, de l'aile gauche. Et on a des débats qui sont parfois animés, mais on trouve toujours le compromis. Donc si on peut le trouver ensemble, on peut le trouver avec les autres. Et moi, dès mardi matin, j'ai dit, si on doit accepter de mettre sur la table le débat sur les retraites, faisons-le. On ne doit rien s'interdire, parce qu'on doit parler aux Français et démontrer notre capacité, non seulement à convaincre, mais qu'on est prêt pour la stabilité de la nation, pour l'avenir de la nation, et pour la stabilité des institutions politiques et démocratiques, de trouver une solution qui nous permette de discuter et avec la gauche et avec la droite. Là, en même temps, il s'applique maintenant. C'est pas juste avant, sous Emmanuel Macron et une majorité forte. Et on était quelques-uns, et la majorité des gens qui ont pris la parole ont dit exactement la même chose. Et donc Elisabeth Borne, le mardi soir, ne fait que confirmer ce qu'on se dit, nous, en réunion de groupe, même si j'ai quelques collègues qui ont fait 2-3 sorties sur les réseaux sociaux qui n'étaient pas de grande qualité. Je crois qu'on ne doit rien s'interdire, et quand on a le Rassemblement National, l'UDR d'Éric Ciotti, la France Insoumise, le Parti Communiste, les écologistes, les socialistes et une partie des Républicains qui sont pour l'abrogation ou la modification de cette réforme des retraites, on ne peut pas s'interdire d'en débattre. Et personne ne dit qu'on l'arrête ou qu'on la mette totalement à la poubelle. On dit juste qu'on peut encore l'améliorer et qu'il faut un débat sain et serein sur son application. Et si ça nous permet à tous de trouver un compromis et de montrer aux Français qu'enfin la classe politique est à la hauteur de ce qu'elle attend, alors chiche, faisons-le.
Donc on attend la nomination d'un nouveau Premier ministre, non présidentiel, a priori. Ça peut être quelqu'un de la société civile qui n'appartient à aucun parti, potentiellement.
Oui, mais ça peut être aussi un élu, un ancien élu de gauche, ça peut être aussi un ancien élu de droite, ça peut être un ancien élu du centre, ça peut être plein de gens tant qu'il a chevillé au corps le fait de trouver une solution pour le budget et d'apporter des réponses aux Français. Et ça paraît langue de bois, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment moi ce qui m'anime le plus. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que je disais que j'avais honte lundi, parce que je pense qu'on a oublié pourquoi on était là. Et même si je donne parfois la sensation d'être déconnecté, parce que certaines personnes le pensent, la réalité c'est que je suis très connecté et que je ressens cette douleur que les Français ont. Parce que quand je dis douleur, c'est ce qu'on ressent aussi quand on parle avec certaines personnes. Les gens se sentent vraiment mal et ont vraiment mal de ce qui est en train de se passer. Donc il faut trouver quelqu'un qui est l'humilité de se dire que s'il est là, c'est pour servir le pays. Et surtout dans une configuration internationale comme nous la connaissons aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de la Russie, mais c'est aussi la guerre économique qui est menée par la Chine et les États-Unis, parce que les États-Unis sont nos alliés sans être nos alliés aujourd'hui, que les drones russes sont partout aujourd'hui en Europe, et qu'on a une instabilité qui est en train de s'installer partout. Et je crois qu'on doit absolument démontrer qu'on sera toujours à la hauteur pour servir notre pays. Comme le font nos militaires, comme le font nos fonctionnaires au quotidien, et comme le font beaucoup de Français chaque matin, en se levant et en participant d'un point de vue civique à l'État français. Mais on a une minorité de gens qui sont parfois des responsables de partis politiques ou alors des personnalités qui ont besoin de sauver leur mandat, qui sont prêts à jouer avec le feu. Et moi, j'ai toujours dit, un mandat ne nous appartient pas. Ça appartient au peuple qui nous a choisis, qui a voté pour nous. Et on leur doit des comptes. Et même si on n'est pas toujours d'accord avec, la base populaire ou populiste du pays, on est capable de pouvoir expliquer les choses et d'expliquer où on va les emmener, comment on va les emmener et pourquoi on les emmène là. Parce qu'à la fin, c'est aussi la responsabilité du politique de définir tout ça. Et on a certains qui l'ont oublié. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Et c'est pour ça qu'il nous faut quelqu'un juste qui ait l'humilité de tout ça et qui ait la capacité de pouvoir unir un maximum de monde qui, à la base, n'a pas envie de se parler. C'est pas simple, mais comme dans toute équipe, comme je disais tout à l'heure, on a toujours un capitaine. Ce capitaine, il n'est pas toujours celui qui est le plus apprécié par tout le monde, mais il fait en sorte que ceux qui sont devant ou derrière ou au milieu puissent jouer tous ensemble parce que on a la même passion, on porte le même maillot et on est censé avancer tous ensemble.
Parliez de capitaine, vous évoquiez également le regard que portaient les Français sur ce qui se passe. Comment jugez-vous leur ressenti vis-à-vis des prises de position d'Édouard Philippe et, pour quelque chose qui vous est beaucoup plus proche, puisque vous êtes porte-parole, la prise de position de Gabriel Attal vis-à-vis du président?
Alors, je vais commencer par Gabriel Attal, à qui j'ai dit mardi que sur le fond, je pouvais comprendre et qu'on pouvait partager plein de choses, que moi-même, j'ai dit à plusieurs fois que la dissolution de 2024 était une erreur de la part du président de la République. Qu'on soit d'accord ou pas, même si retourner aux urnes, c'est pas une erreur, c'était incompris par tout le monde, donc c'était une erreur. Personne n'a compris la décision du président de la République à ce moment-là. Et que sur le fond, on pouvait le partager, mais que sur la forme, on ne fait pas ça. Surtout quand on atteint un Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et quand on est président d'un groupe politique et d'un parti politique. Et concernant Édouard Philippe, je crois que les Français l'ont dit eux-mêmes. Ils n'ont pas compris sa position. Et quand on veut être soi-même président de la République, on ne tient pas ce genre de discours. Quand on a été Premier ministre d'Emmanuel Macron, à nouveau, on ne tient pas ce type de discours. Même si je peux entendre, parce que c'est important de respecter ce qui est dit par chacun d'entre nous, je crois qu'ils ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils disent la même chose que Marine Le Pen, et ils font la même chose que Jean-Luc Mélenchon pour faire tomber la Ve République. Et quand on est soi-même un élu, parce qu'il est maire, ou un député comme Gabriel Attal, on oublie une chose, c'est que on permet à n'importe quel citoyen de dire « bon bah, j'aime pas mon élu, je veux qu'il démissionne ». Alors là, il n'y a plus de système démocratique. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, la représentation, elle n'est pas parfaite, mais au moins ça marche. Et je ne suis pas certain que vous allez voir votre patron tous les 4 matins en lui expliquant que vous n'êtes pas content, vous devez partir. S'il n'y a plus de patron, il n'y a plus d'entreprise. S'il n'y a pas de président de la République, c'est le chaos. Qu'on soit content ou pas content, c'est la réalité. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Emmanuel Macron, c'est la réalité. Il y a beaucoup d'autres institutions entre-temps pour faire le travail. C'est à nous, parlementaires, de trouver la solution. On n'a pas été capable de prendre notre rôle correctement pour certains d'entre nous, parce qu'on était en train de se dire qu'il y avait autre chose à jouer. Et les partis politiques jouent ce jeu-là. Et je rappelle que si De Gaulle a créé la 5e, c'était pour éviter ça. Et il l'avait dit que si, pendant la 5e, ça reviendrait, ça allait être compliqué. On est en plein dedans. Et moi, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas être défaitiste et qu'il y a toujours plusieurs façons pour y arriver. Et je suis navré, mais c'est notre responsabilité. On a été élus par le peuple pour ça. Et faire ces grandes sorties en permanence pour taper sur tout, comme s'il n'y avait qu'un seul responsable en permanence sur tous les problèmes que nous avons, ça pose problème sur le fait d'être capable d'avoir l'humilité de se regarder dans un miroir et de se dire comment moi j'y ai participé.
Même si le sujet va être diffusé peut-être à un moment où l'actualité aura rattrapé nos propos, puisque le sujet va être diffusé ce vendredi, entre-temps, on espère un Premier ministre va être nommé. Si ce Premier ministre et si le gouvernement qu'il nomme par la suite, ça ne fonctionne toujours pas, quelle sera la solution? Seule la dissolution, puisque on vient de le dire, on ne touche pas au président, tout ce que ça mettra en péril.
Clair, si ça ne marche pas, je ne vois pas comment on rattrape tout ça. La dissolution ne permettra pas. Alors, soit ça donne une majorité au Rassemblement National, et je ne suis pas certain que c'est ce que veulent les Français, ça, c'est ce qui s'est exprimé la dernière fois. Ce qu'on a beau m'expliquer le Front Républicain, ce que vous voulez, la réalité, c'est que les Français se sont mobilisés en masse, n'ont jamais été aussi nombreux à voter à des législatives, et ont fait le choix de ne pas mettre le Rassemblement National en majorité. Donc, là, il peut y avoir une démobilisation, donc un Rassemblement National très fort, qui peut avoir une majorité relative ou pleine. Ou alors, on revient avec presque la même configuration à l'Assemblée Nationale. Un peu plus de RN, un peu plus de gauche, et toujours un bloc central, et toujours personne sans majorité. Et moi, je pars du principe que si ça ne marche pas là, il n'y a plus rien qui peut marcher derrière. Et là, on a un risque de chaos. Parce qu'on a l'économie qui va s'effondrer, parce qu'on va être sous la tutelle de certaines agences. Et ça, c'est la réalité. Et donc je pense que là, on n'a pas le choix et que tout le monde a pris conscience qu'on n'avait pas le choix. Et moi, ce que je déplore, c'est qu'on est obligé d'en arriver là pour se rendre compte qu'on n'avait pas le choix. Alors que depuis 2022, On est nombreux à dire que s'il n'y a pas de coalition, et c'était avant la dissolution, alors on ne peut pas fonctionner. Mais encore une fois, parce qu'une minorité de gens, mais vraiment une minorité de gens, décide dans un bureau avec des militants de ce qu'ils doivent faire, alors ça ne marche pas. Et encore une fois, ils ne parlent pas aux Français. Un parti politique n'a pas d'intérêt s'il n'est pas capable de parler aux Français. Et les Français ne votent pas simplement des partis politiques, ils votent aussi des idées et ils votent pour des personnes. À nous de montrer que les idées sont là, que les personnes sont à la hauteur, et qu'on a enfin compris que quand on est élu par le peuple, on doit servir le peuple. Alors, c'est simple comme discours, mais c'est pas du populisme, c'est une réalité qu'on a oubliée. Après, on n'est pas obligé de le servir comme le peuple souhaite toujours qu'on le serve. On le voit, il y a des dérives partout, et tout n'est pas si simple qu'on peut le croire que ça peut l'être. Mais la réalité, c'est que c'est notre responsabilité.
On ferme là le sujet, puisque de toute façon, après, on ne peut que parler dans le vent, puisqu'on ne sait pas quelle sera la suite exactement.
Moi, je ne suis pas Hitchcock ni Spielberg, donc je ne suis pas capable de vous écrire un beau scénario derrière.
On va élargir un petit peu le débat et parler international, et malheureusement, on est obligé de reparler du président des États-Unis et Trump. Son plan pour Gaza, votre regard ?
Moi, tout ce que je veux, c'est la paix, et qu'on ait deux États qui vivent l'un à côté de l'autre en paix. Parce que je crois que les peuples eux-mêmes ne se détestent pas. Et que, encore une fois, on a une minorité qui est le gouvernement israélien et une minorité qui est le Hamas qui est en train de montrer à l'ensemble de l'humanité que quand on n'est pas capable de se parler, d'avancer côte à côte, alors on se détruit. Et quand on est vu comme le territoire berceau de l'humanité et des religions, on doit trouver des solutions. Je pense que Trump a proposé quelque chose d'intéressant et il a obtenu un cessez-le-feu, du moins la signature d'un accord ce matin. On verra si ça fonctionne ou pas. Il y a des otages qui doivent être rendus à leur famille. Il y a aussi des comptes qui doivent demander au gouvernement israélien. Il y a des comptes qui vont être demandés aux responsables du Hamas. Mais on a besoin d'une stabilité dans la région. Parce que on ne se rend pas compte, mais tout ça a un impact sur l'ensemble des pays autour, que ce soit sur le Liban, sur l'Iran, sur d'autres, parce qu'en fait, la bande de Gaza est un proxy de l'Iran, comme le Yémen peut l'être aussi aujourd'hui, comme une partie du Liban l'a été. Mais en apaisant et en enlevant cette force du Hamas à Gaza, ça permettra d'apporter déjà une stabilité. Et après, on a une démocratie israélienne qui a besoin de se remettre en question sur la manière de fonctionner, sur ce qu'elle a fait. Et qui elle-même, pour la grande majorité de la population israélienne, n'était pas en accord avec ce qu'il se passait. Et on a besoin d'un apaisement, on a besoin de trouver une solution. Trump, et il n'était pas le premier parce que les Européens avaient poussé dans le sens-là aussi, a mis la pression, et c'était le seul à pouvoir mettre la pression sur Benjamin Netanyahu. Pourquoi ? Parce qu'il était le seul à le soutenir. Et qu'à l'ONU, c'est le seul qui a soutenu la démarche de Netanyahu jusqu'à maintenant, et que sinon, on aurait pu arrêter ça depuis bien longtemps. Donc Trump a sa part de responsabilité dans le conflit qui a été maintenu sur le monde de Gaza, et en même temps, il a sa part de responsabilité dans la réussite potentielle ou pas de cet accord de paix. Pour l'instant, je me réjouis qu'il y ait un accord. Maintenant, on attend de voir si ça va s'appliquer ou pas, parce que la dernière fois qu'on a parlé de trêve, Israël a continué à bombarder. Et il faut absolument, absolument que la bande de Gaza soit nettoyée des terroristes. Et quand je dis nettoyer, c'est pas dans le sens les tuer et autres, c'est qu'il n'y ait plus personne capable de pouvoir prendre le pouvoir. Et qu'on raconte aussi demain dans les écoles à quel point ces groupuscules peuvent être néfastes pour l'ensemble de la population. On a quand même deux peuples aujourd'hui qui n'ont rien demandé à personne et qui s'entretuent parce que, encore une fois, une minorité de personnes a décidé qu'ils s'entretuent.
En revanche, cet accord de Trump, qui s'inscrit dans sa course au prix Nobel de la paix, a effacé le geste d'Emmanuel Macron pour la reconnaissance de la Palestine.
Oh, ça n'a rien effacé.
Ça a effacé sa portée.
Oui et non, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, je crois que tout le monde l'a vu, et en plus, il a emmené avec lui énormément de pays, et il n'y avait pas que la France. Mais je crois que sans ce geste-là, il n'y aurait peut-être pas eu la même pression non plus. Il faut le prendre en considération. Quand on a autant de pays rattachés à l'ONU qui suivent le président de la République française dans cette logique-là, ça met aussi la pression sur Donald Trump. Et le discours du président de la République à l'ONU a mis la pression à Donald Trump. Mais au-delà de ça, on est aussi, nous, dans cette guerre russo-ukrainienne, on joue un jeu différent, mais on a été attaqué par Israël. Les propos de son ambassadeur, les propos de son premier ministre, le fait qu'on soit des antisémites, tout ça, ce sont des choses qui sont tellement insultantes pour la France. La France a toujours fait le choix d'être équilibrée. Ça veut dire de défendre les Israéliens qui sont attaqués, mais aussi de défendre les Palestiniens qui sont attaqués par les Israéliens. La France n'a jamais accepté la colonisation d'autres territoires. La France a toujours dit « il faut deux États ». Et ça, depuis De Gaulle. Sauf qu'aucun président français n'a eu le courage de le porter à l'ONU. Là, on a un président qui l'a fait, il ne l'a pas fait tout seul. Et je crois que c'est tout à l'honneur de la France. Et que les débats qui ont été posés par certaines personnes ne démontrent pas la réalité du pourquoi, du comment. Ce n'est pas un soutien au Hamas. C'est un soutien à une population, à deux populations, à deux États, pour une paix durable. Sans ça, on n'y arrivera jamais.
Malheureusement, l'actualité, entre ce qui se passe en France et cet accord proposé par Donald Trump, efface un peu du radar l'Ukraine. Et pourtant, l'Ukraine, c'est toujours là.
Alors, on est toujours sur deux sujets complètement distincts, mais qui ne sont jamais abandonnés. Des fois, l'Ukraine prend le dessus aussi sur ce qui se passe à Gaza. D'ailleurs, les gens le reprochaient qu'on parle plus d'Ukraine que de ce qui se passe à Gaza, et puis on peut... Et vice-versa, mais...
Je parle de la séquence actuelle.
On oublie rien, mais cette séquence, elle va être très courte, si tout se passe bien. On espère vraiment que les familles vont récupérer les otages, mais... La séquence ukrainienne, elle est en train de toucher l'ensemble de l'Europe. Ce qu'il se passe au Danemark, ce qu'il se passe en Allemagne, tous ces drones qui volent à droite et à gauche, les pressions qui sont mises par Trump, la menace envers la Pologne ou les Pays-Baltes, et le discours de nos militaires, on dit long sur ce qui est en train de se passer. Donc personne ne l'oublie. Et d'ailleurs, je crois qu'Odessa a encore été touchée très fortement cette nuit par des bombardements russes. Personne ne l'oublie. On a une communauté ukrainienne à Metz qui nous le rappelle aussi au quotidien. Mais je rappelle juste une chose, c'est qu'on n'abandonnera jamais l'Ukraine. Et qu'on trouvera toujours des solutions. Et qu'aujourd'hui, on est testé par la Russie pour savoir si on est capable de se défendre. Et le jour où on abattra un drone, il y a un risque que la Russie trouve une excuse pour faire quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Mais qu'on soit tous clairs, même ceux qui ne veulent pas le voir, la Russie est en train de mettre en danger l'ensemble de l'Union européenne.
Vous anticipez ma question, c'était justement ça. C'est vraiment le moment que l'Europe se serre les coudes, enfin que tous les pays européens se serrent les coudes vis-à-vis de ces tests avec les drones.
Oui, il faut que tout le monde se serre les coudes et malheureusement, il achète certains pays comme la Hongrie, comme la République tchèque, comme la Slovaquie en ce moment. Il a essayé de faire en sorte que, par exemple, en Moldavie, en Roumanie ou en Bulgarie, les élections soient truquées. En faisant passer de fausses informations, en France, ils sont hyper actifs sur les réseaux sociaux aussi, on le voit sur Twitter. En plus, ils sont accompagnés parfois par Elon Musk, qui accompagne cette démarche d'ingérence étrangère. La Géorgie est en train de déclarer les partis dits démocratiques et pro-européens comme interdits dans son pays et de mettre en prison les représentants de ces partis à cause de la volonté russe. On ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, la Russie est à deux doigts de créer le plus grand danger d'insécurité en Europe. Même si on est déjà dans une certaine insécurité, elle est à deux doigts de créer la bascule et d'avoir la peur de la guerre dans l'ensemble de l'Union européenne. Pas la guerre comme on peut l'imaginer entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a déjà une forme de guerre froide, je vous le disais tout à l'heure, mais il est en train de tester l'ensemble des pays européens et son seul objectif, c'est de faire peur aux populations pour que les populations se rebellent. Parce que tout le monde a peur de la guerre. Parce que tout le monde a peur de la mort, et ça c'est normal. Mais n'oublions pas une chose, l'ennemi ce n'est pas votre pays, l'ennemi ce n'est pas l'Europe, l'ennemi actuellement c'est la Russie.
Raison de plus pour que la France retrouve une stabilité politique. Et justement, les craintes de dissolution à l'Assemblée pouvaient faire reporter les élections municipales, et donc, vous me voyez venir, j'en viens aux élections municipales, toujours pilote. Qu'observez-vous en tant que pilote? Où en sont vos radars?
Des discussions partout, des partis qui font le choix d'accompagner... Un maire qui disait être en dehors des partis, je regarde, j'écoute, je dialogue, et je pense que personne n'est dedans quand on voit déjà ce qui se passe au niveau national, et encore plus à l'international. J'ai très peu de personnes avec qui je parle de municipal, parce qu'en fait, certains ont même oublié que c'était au mois de mars.
Et pourtant, ça arrive très vite.
Tout à fait. Il y aura des belles choses, je l'espère, des belles histoires à raconter, et... J'espère juste que les Français ne se détourneront pas de l'élection municipale parce que c'est le premier échelon et c'est celui aussi qui porte des politiques publiques intelligentes. Mais il faudra aussi que les élus soient responsables et participent à cet effort d'économie dont on a besoin.
Oui, justement, vous parliez de raconter des histoires et certains à vous-même faire du storytelling en attendant de déclencher certaines choses.
Encore une fois, une minorité de personnes qui parlent beaucoup, des personnes qui parlent à leur parti, à leurs militants. Moi, j'adore quand on dit « mon électorat ». Moi, je pars du principe que rien n'appartient à personne et qu'il faut savoir convaincre. Donc après, on verra ce qu'il se passe. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il va falloir qu'on change les pratiques un peu partout, parce qu'on nous demande de plus en plus de démocratie, de participation, d'écoute. Et ça ne marche pas simplement par des réunions de quartier, ça ne marche pas que par des petites inaugurations ou par des posts sur les réseaux sociaux. C'est un travail du quotidien, et faire les choses autrement, c'est apporter une vision politique différente.
Nous aurons l'occasion d'en reparler d'ici le mois de mars.
Je l'espère.
Merci, monsieur le député.
Merci à vous, Christophe.
C'était Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Bonne journée et à bientôt.